Qui va là dans la nuit? Eh bien, c'est Catherine Dutu pour le journal. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une répression plus forte pour les atteintes contre les forces de l'ordre, de nouvelles prérogatives pour les polices municipales et une montée en puissance de la sécurité privée. La proposition de loi sur la sécurité globale arrive aujourd'hui devant l'Assemblée, mais le texte divise jusqu'au sein de la majorité. L'opposition et des journalistes s'inquiètent notamment des peines prévues pour ceux qui diffusent des images de policiers et des gendarmes. Comment faire voir les violences policières?
Et puis un nouvel espoir autour d'un vaccin, celui de la société américaine Moderna, efficace à près de 95% contre le Covid-19.
Une dose d'espoir, mais l'hiver sera très sombre, prévient Joe Biden. Le président élu aux États-Unis a détaillé hier soir son plan de soutien à l'économie. En Europe, budget bloqué à cause de la Pologne et de la Hongrie. À la une en France encore, les finances et un coup de pouce pour les professeurs. 100 euros net de plus par mois, mais uniquement pour les enseignants en début de carrière à partir de mai prochain.
Et puis Catherine, dans la question du jour, pourquoi l'économie du football est-elle aussi mise à mal? Je poserai la question à Pierre Rondeau, il est économiste du sport.
Plus de 1300 amendements déposés à la hauteur des divergences sur la proposition de loi dite de sécurité globale. Le texte est porté par plusieurs députés LREM, dont Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, et Christophe Castaner, ex-ministre de l'Intérieur. Le texte divise profondément la classe politique. Pour quelles raisons? Explication d'Antoine Marette.
Officiellement, l'initiative ne vient pas du gouvernement, mais des parlementaires de la majorité, sauf que beaucoup y voient la main de la place Beauvau. L'État régalien est confronté depuis plusieurs années à la diffusion d'images sur les réseaux sociaux censées dénoncer les violences policières. Elles sont souvent réalisées par des journalistes indépendants, voire des militants, qui n'ont pas accès à un média grand public. Il n'est pas interdit de filmer les forces de l'ordre en pleine action, cela fait partie de la liberté d'informer. Mais si le texte passe sous sa forme actuelle, il deviendra interdit de diffuser ces images si elles permettent d'identifier le policier ou le gendarme. Il s'agit pour les co-rapporteurs du texte de, je cite, « protéger ceux qui protègent », une phrase qui séduit au-delà de la majorité, à droite et à l'extrême droite. Le texte est soutenu par des députés LR, le RN estime qu'il va dans le bon sens. Il suscite en revanche des réserves au Modem et fait bondir à gauche. La députée LFI Danielle Obono dénonce le risque d'autocensure. Quant au socialiste Hervé Solignac, il estime que la proposition de loi pousse tous les curseurs et il ajoute « même Sarkozy n'est jamais allé aussi loin ».
Au-delà de la classe politique, les sociétés de journalistes d'une trentaine de médias dénoncent une atteinte à la liberté d'informer avec l'article 24 de la proposition de loi. Il punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la diffusion dans un but malveillant d'images de policiers ou de gendarmes en opération. Maxime Régnier, photographe indépendant, explique ses inquiétudes.
Aujourd'hui, il existe déjà des outils légaux pour protéger les policiers, que ce soit les incitations à la violence, au meurtre, les insultes, le cyberharcèlement. C'est des outils qui existent, qui sont pas forcément au point aujourd'hui. Mais celui-là, il est très large, il est très flou. Et potentiellement, ça va être des interpellations préventives de journalistes en train de faire leur travail. Et ensuite, ça va remettre aussi un travail d'enquête en jeu, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont amateurs. Et les gens, ils vont plus oser les poster, ou alors ils vont les flouter, mais flouter c'est compliqué, surtout une vidéo. Et si elles sont floutées, les vidéos elles seront toujours diffusées, mais elles auront pas le même impact, peut-être qu'elles sortiront tout simplement pas sur les réseaux sociaux, et pour les lives ça va être un enfer.
Maxime Régnier, photographe indépendant, vous le retrouverez à 7h25 sur France Culture pour le reportage de la rédaction. Et pour l'heure, il est 7h04 dans la course au vaccin. Chaque jour ou presque, un nouveau laboratoire dégaine ses résultats intermédiaires. Après Pfizer et le vaccin russe la semaine dernière, c'est Moderna qui suscite l'espoir. La société américaine affiche un taux d'efficacité de près de 95% contre le Covid-19, c'est-à-dire mieux que Pfizer et ses 90%. Alors que la France a enregistré en 24 heures 508 décès dus au coronavirus, le vaccin de Moderna pourrait arriver en Europe dès l'an prochain, selon le PDG du groupe, et il faudrait dit-il remercier les États-Unis qui ont pris tous les risques dès le mois de mars. Ils ont investi des centaines de millions d'euros pour que le vaccin voie le jour le plus vite possible. Moderna espère aujourd'hui prendre la tête dans la course au vaccin, Véronique Julia.
Plus de 94% d'efficacité et surtout pas le moindre casse vert chez les patients vaccinés. C'est ça aussi que retient Moderna, la capacité de son vaccin à protéger du virus, mais aussi à empêcher l'apparition d'un cas grave qui conduirait en réanimation. Pas d'effet secondaire notable, à l'exception d'un peu de fatigue, de courbatures ou de rougeur au point d'injection. Autre atout de cette biotech américaine qui travaille depuis 9 ans déjà sur les vaccins à ARN, la conservation du produit. Pas besoin de le maintenir à très très basse température. Le vaccin peut se garder 6 mois à moins 20 degrés Celsius, mais surtout un mois dans un frigo normal et 12 heures à température ambiante. Idéal pour une distribution à grande échelle qui pourrait se faire en pharmacie ou en cabinet médical. Et un point marqué face à Pfizer qui conserve, lui, son vaccin à moins 80 degrés. Dès le début du mois de mars, le patron de Moderna, Stéphane Bancel, avait juré à Donald Trump qu'il était possible de rêver d'un vaccin à l'horizon de quelques mois. Il tape sur de premières vaccinations aux États-Unis dès Noël. Pas de contrat à signer encore avec l'Union européenne, mais ce sera chose faite, il en est sûr, dès le mois de janvier. La chaîne industrielle pour l'Europe est déjà prête. Le principe actif sera fabriqué en Suisse et la mise en flacon est prévue en Espagne.
Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, reconnaît lui qu'il pousse parfois ses équipes pour arriver à ses fins. Vous voulez être celui qui va décevoir les patients? Pas moi. Est-ce que j'en suis désolé? Non, répond-il à ceux qui l'accusent aussi de management toxique. On y revient dans le journal de 8 heures. Davantage d'Américains risquent de mourir du Covid-19 si l'administration Trump continue de bloquer la transition, a déclaré hier soir le président élu Joe Biden. S'exprimant depuis son fief de Wilmington dans le Delaware, il a détaillé le plan de soutien à l'économie américaine qu'il souhaite mettre en place dès son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, Grégory Phillips.
Avec à ses côtés la future vice-présidente Kamala Harris, Joe Biden participe à une table ronde qui réunit les dirigeants des grandes sociétés américaines, General Motors, Gap, Microsoft, ainsi que des représentants des syndicats, notamment du secteur automobile. À l'issue, le président élu détaille ce plan à 700 milliards de dollars qu'il a baptisé Build Back Better, reconstruire en mieux. Nous allons, promet-il, créer 3 millions d'emplois bien payés dans l'industrie, le secteur automobile, les voitures électriques et les énergies vertes. Biden confirme aussi sa volonté d'imposer un salaire minimum. $15 de l'heure pour tout le pays, c'est un minimum pour élever une famille. C'est comme ça qu'on va reconstruire la classe moyenne. Mais alors que l'épidémie de coronavirus repart de plus belle aux États-Unis, Biden prévient « l'hiver sera très sombre » et il encourage le Congrès à adopter immédiatement un nouveau plan de soutien pour aider les travailleurs et les petites entreprises. Ils sont la colonne vertébrale de nos communautés. Mais aujourd'hui, ils sont sur la brèche. Il y a urgence à mieux financer les villes, les localités, afin que les travailleurs essentiels puissent garder leurs emplois. Avec la lutte contre la pandémie, l'économie reste la priorité du président élu.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. La relance économique bloquée cette fois au niveau européen. Alors que les gouvernements des 27 ont envoyé à la Commission leur projet pour se relever de la crise, la Pologne et la Hongrie ont refusé hier de valider le budget européen assorti de 750 millions d'euros. Représailles face à Bruxelles qui veut assortir ses aides au respect de l'état de droit, Pierre Benazé.
Le blocage budgétaire de la Hongrie et de la Pologne n'est pas vraiment une surprise, mais il reste en travers de la gorge des négociateurs du Parlement européen et de l'Allemagne, qui préside pour 6 mois le Conseil des 27 États membres. Ils avaient triomphalement annoncé un compromis mardi dernier après de longues tractations. Ce compromis, qui augmente le budget de l'UE sur 7 ans de 17 milliards d'euros, est maintenant menacé, car la Pologne et la Hongrie rejettent l'ensemble du paquet financier, à la fois le plan de relance et le budget commun. Le veto de la Pologne et de la Hongrie est toujours lié au rejet par les deux pays du lien avec l'état de droit. La conditionnalité avait pourtant été l'objet d'un accord début novembre entre l'Allemagne et le Parlement européen. Privation de fonds européens en cas de non-respect de l'indépendance de la justice ou de frein aux libertés de la presse ou de l'enseignement, par exemple. Le président du Parlement européen, David Sassoli, s'est donc félicité un peu vite mardi dernier quand il affirmait qu'il ne serait pas possible de revenir en arrière. Selon les gouvernements polonais et hongrois, cette conditionnalité est directement dirigée contre eux et l'Europe centrale en général. Reste donc maintenant à voir si les deux pays sont prêts à provoquer une grave crise ouverte en Europe en s'arc-boutant sur leur veto.
Le Royaume-Uni, lui aussi, face à de nombreux défis et son Premier ministre doit rester confiné pour 2 semaines. Boris Johnson a été en contact avec un député qui a été contrôlé positif au Covid-19.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Avant même La crise sanitaire augmentait les enseignants pour rendre le métier plus attractif.
Pour y parvenir, le ministère a donc débloqué une enveloppe de 400 millions d'euros qui doit également permettre de financer une prime numérique pour les professeurs. Mais la hausse de salaire va surtout concerner les jeunes enseignants, ce qui est loin de satisfaire les syndicats à Kim Kasmi.
Finalement, seul un tiers des enseignants seront augmentés, principalement ceux en tout début de carrière qui toucheront 100 euros de plus par mois à partir de mai. D'où la grande déception des syndicats qui réclamaient une loi de programmation pluriannuelle qui aille au-delà de 2021. Sophie Venetite, secrétaire générale adjointe du SNES.
Il y a un petit effort qui est fait sur le début de carrière, mais qui est très insuffisant, puisque très rapidement, finalement, les enseignants de début, milieu de carrière ne toucheront pas grand-chose. Or, il y a besoin d'augmenter les salaires. On sait aujourd'hui qu'il y a un problème d'attractivité. Il y a des parents qui constatent à chaque rentrée qu'il manque des enseignants dans la classe de leurs enfants. C'est parce qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas assez bien payés. Et très clairement, les annonces de Jean-Michel Blanquer ne vont pas permettre de résoudre ce problème-là.
Jean-Michel Blanquer a également annoncé une prime de 450 euros par an pour les directeurs d'école, ainsi que la sanctuarisation d'au moins une journée par mois pour les directeurs d'école. Insuffisant pour Guylaine David, co-secrétaire national du SNUIPP.
Il vaut mieux sanctuariser à la semaine et avoir une journée de décharge par semaine pour ces directeurs d'école-là pour pouvoir effectuer ce travail administratif qui est très important à l'école.
Enfin, le ministère a également validé une prime numérique de 150 euros par an afin que les enseignants puissent mieux s'équiper en matériel informatique, ce qui sera bien utile pour ceux qui devront refaire des cours en distanciel.
Enseignants, infirmières scolaires, assistantes sociales, assistants d'éducation et agents territoriaux, dans un rare mouvement commun, les syndicats des personnels des établissements de Seine-Saint-Denis appellent à faire grève aujourd'hui pour réclamer un plan de rattrapage pour les services publics de leur département le plus pauvre de l'Hexagone. Autre sujet de friction, cette fois dans le supérieur, le nouveau projet de loi sur la recherche est voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, contesté depuis plus d'un an par la communauté universitaire partout en France. Des chercheurs, des enseignants dénoncent une précarisation accrue de leur métier. Des élus de gauche et des écologistes comme Anne Hidalgo ou Éric Piolle chez Les Verts se sont associés à la pétition lancée contre le recours à la plateforme Amazon avant les fêtes de fin d'année. France Nature Environnement, Greenpeace ou la Confédération des commerçants de France et le syndicat de la librairie française font partie des associations signataires qui dénoncent les conséquences sociales, fiscales et environnementales du développement d'Amazon. Ils plaident pour privilégier le recours au commerce de proximité ou à l'économie circulaire pour les cadeaux de Noël. Le temps de ce mardi 17 novembre partagé entre nuages et éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 16 degrés sur la moitié nord du pays. Comptez de 13 à 21 au sud, Guillaume Hermès.
Merci Catherine Dutus.